un podcast France Culture.
Jeudi, nous parlons d'économie autrement, avec des artistes, des chefs d'entreprise, des personnalités du monde politique. Pas question d'évoquer l'actualité, mais des livres, des films et des histoires qui ont forgé l'imaginaire économique de nos invités. Aujourd'hui, nous recevons une romancière qui s'est emparée dans ses polars de l'affaire Alstom, du scandale Madoff ou encore du combat des usines des Houx de Lorraine. Nos fantastiques années fric, l'or noir, racket, voilà quelques-uns de ces romans qui entremêlent l'intrigue politique et scandale financier. Bonjour Dominique Manotti.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté ce grand entretien. D'abord, est-ce que vous qualifieriez vos romans de polar économique ?
Alors, je ne sais pas si je les qualifierais comme ça parce que ça me priverait de beaucoup de lecteurs.
Il ne faut pas dire qu'on fait de l'économie.
L'économie fait peur. Mais de fait, oui, j'écris des polars pour essayer de comprendre la société, comment elle va, comment elle marche, et donc l'économie en dernière instance.
Votre intérêt pour l'économie est né de votre engagement militant au sein de l'UNEF d'abord et de l'Union des étudiants communistes dans votre jeunesse ?
Oui, absolument. C'est-à-dire que quand je suis arrivée en fac, en 1960, j'avais 17 ans. Et c'était les deux dernières années de la guerre d'Algérie. Et le choc a été là. J'ai découvert dans le milieu universitaire, avec les étudiants, avec les batailles politiques, y compris des batailles physiques rangées. Aujourd'hui, on parle beaucoup de violence. L'époque était autrement violente. Et donc, j'ai découvert ce qui se passait vraiment en Algérie, dont je n'avais pas la moindre idée avant d'arriver en fac. J'ai découvert les massacres, la torture, j'ai découvert le refus de reconnaître le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ma réaction, si vous voulez, dans un premier temps, a été extrêmement morale. Ma réaction a été de dire « pas en mon nom ». Pas en mon nom.
Pour vous, c'était une évidence à ce moment-là, Dominique Manotti, de vous engager pour l'indépendance de l'Algérie ?
C'était une évidence. Tout ce que j'avais appris avant, tout ce qu'on m'avait transmis n'allait pas du tout dans ce sens-là. Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, démocratie, reconnaissance des autres, ouverture, universalisme. C'était, si vous voulez, le choc était vraiment très violent, très très violent.
C'est aussi une époque, Dominique Manotti, où vous découvrez Marx. En quoi la lecture du Capital a été déterminante pour vous ?
Alors, la lecture du Capital et des autres ouvrages, mais bien sûr, le Capital reste la colonne fondatrice, c'est le début, si vous voulez. C'est un moment où je me dis, je peux comprendre la société comme elle marche. Voilà. Jusqu'alors, j'étais effectivement dans la rébellion, dans la fureur, en quelque sorte, de me trouver prise, malgré moi, dans cet état de choses, le colonialisme, le peuple algérien écrasé, et les autres. Bon, tout d'un coup, je me commençais à comprendre pourquoi, comment, et donc, commençais à me dire, je vais pouvoir me battre, je vais trouver une forme de logique, de raison à cette affaire, et je vais pouvoir agir. Donc c'était très très fort ça, la découverte, si vous voulez, d'un système intellectuel qui était en même temps une porte ouverte pour l'action. C'était pas purement de la pensée, c'était de la pensée qui me donnait des moyens d'agir.
Ce que vous décrivez ici, Dominique Manotti, c'est aussi ce qui caractérise Rosa Luxembourg, pour laquelle vous avez un attachement aussi particulier, qui n'est pas seulement, elle, une militante, mais aussi une théoricienne de l'économie.
Oui, absolument. Et en même temps, si vous voulez, ce qui me fascine chez Rosa Luxembourg, c'est un rapport à la démocratie et au peuple tout à fait différent. J'ai jamais été véritablement léniniste, on va dire. Peu avant-gardiste et très attaché au mouvement de masse. et cette forme de démocratie de masse qui va m'amener finalement, quelques années plus tard, à faire du syndicalisme.
Alors, il y a les penseurs révolutionnaires qui sont importants dans votre vision de l'économie, Dominique Manotti. Et puis, il y a aussi les auteurs classiques que vous avez lus et que vous avez aussi appréciés. Je pense à Ricardo, mais aussi pour Smith, pour lequel vous avez, je crois, une tendresse particulière. Pourquoi cela ?
Alors, quand j'ai commencé à lire Marx, j'ai bien sûr lu des tas d'autres choses. En plus, je faisais de l'histoire. Donc, si vous voulez, je lisais. Eh bien, Adam Smith, la première traduction d'Adam Smith en français date du XVIIIe siècle et elle est écrite dans un français magnifique, beaucoup plus agréable à lire que Ricardo. Donc, si vous voulez, voilà, j'ai une petite tendresse pour Smith qui dans la traduction que j'ai lue est un bon écrivain
et qui est un philosophe peut-être avant d'être un économiste.
Non, c'est un économiste du 18e. Non, il est en plein dans le mouvement économique du 18e, qui est encore très très philosophique, oui certainement, mais c'est de l'économie. Pas de la philo.
Vous êtes venu aussi à l'économie par l'histoire, Dominique Manotti. C'est l'histoire, hein, votre véritable passion. Elle est née, entre autres, de votre lecture de l'intégralité des œuvres de Balzac au fond de la classe pendant les cours de maths.
Ah oui, absolument. Je ne sais pas d'où vous avez...
On a trouvé cela dans une ancienne interview.
J'étais orientée en seconde, je faisais du latin grec et des maths. Et en seconde, j'ai découvert que... Enfin, j'avais un professeur de maths beaucoup moins brillant que celui que j'avais en troisième. Donc, j'ai découvert que les maths, c'était pas ma voie. Donc, je me suis mise au fond de la classe et j'ai lu l'intégralité de la Comédie humaine dans le fond de la classe.
C'est aussi...
J'ai adoré. J'ai adoré. Je garde une vraie reconnaissance à Balzac.
Et aussi à César, vous avez lu La guerre des Gaules qui vous a beaucoup intéressé.
Alors ça, c'était encore bien avant, au cinquième, je crois. La guerre des Gaules, si vous voulez, c'est un livre qui c'est un des tout premiers livres qui m'ont bluffé sur la question du style. C'est un des tout premiers livres où je me suis dit, c'est écrit exactement comme il faut écrire. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est dans un langage et dans une structure de phrase d'une extrême simplicité, avec une rigueur totale. Il n'y a pas un mot de trop et on ne peut pas enlever un mot. Et chaque mot est vraiment à sa place. Ça m'a sidérée. Je crois que c'est le premier livre de latin, enfin écrit en latin, que j'ai vraiment énormément aimé.
Vous avez choisi, dans vos études d'histoire, de travailler sur le 19e siècle. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est le temps des grandes transformations, le passage d'un monde à un autre ?
Bien sûr. Ma spécialité, c'était la révolution industrielle. Si vous voulez, il y a un peu cette idée que pour comprendre où on en est, de nos révolutions industrielles, parce que on a dépassé la première, mais pour comprendre cette succession, et pour comprendre où on en est maintenant, il faut comprendre les débuts. Voilà, c'est une idée, je crois, très, très des historiens. Il faut comprendre comment c'est venu, comment ça s'est passé. Voilà, très concrètement, comment ça s'est passé.
Et l'un des symboles de ce 19e siècle triomphant, c'est le chemin de fer, un lieu très romanesque pour commettre un crime. Après la découverte d'un corps dans La bête humaine de Jean Renoir, la police mène l'enquête auprès des passagers.
Et vous, vous n'avez rien vu ?
Je n'ai rien vu, monsieur le commissaire. Le train était presque vide.
Et vous, monsieur, vous êtes monté à Rouen ?
Oui, monsieur.
Et vous avez dormi pendant tout le trajet ?
Oui, monsieur.
Et vous, Lantier, où étiez-vous pendant ce temps-là ?
Moi, j'étais dans le couloir.
Et vous n'avez vu passer personne ?
Bah, c'est-à-dire, monsieur le commissaire, que... J'avais une escarbille dans l'œil et ça me faisait mal, alors pour faire attention.
Une escarbille dans l'œil, voilà le mensonge de Jean Gabin, alias Jacques Lantier, face à la police, parce qu'il a bel et bien vu la belle Séverine et son mari au moment du crime. Le train et le crime, voilà un film qui réunit deux de vos grands centres d'intérêt, Dominique Manotti.
Oui, absolument. Le train, je m'en suis un peu écartée maintenant.
C'était le sujet de votre thèse ?
Mais c'était le sujet de ma thèse, effectivement.
Vous avez travaillé en particulier sur la nationalisation des chemins de fer au XIXe siècle ?
J'ai travaillé sur l'idée de nationalisation, d'où ça vient, qui a lancé la revendication de nationalisation, qui l'a soutenue et qui l'a combattue. Et ce sont les ingénieurs qui ont porté la volonté de nationaliser les chemins de fer à une époque où les républicains la combattaient vigoureusement. Voilà, donc, et comment les républicains se sont ralliés à l'idée de nationalisation, et bien quand ils ont pris le pouvoir.
Pour vous, c'est le signe que tous les choix économiques sont politiques ?
Tous les choix économiques sont politiques.
Vous avez été très active, Dominique Manotti, au Cahier de Mai, cette revue qui a été créée après mai 1968 pour donner la parole aux ouvriers. C'est là que vous avez en quelque sorte fait vos gammes d'écrivains ?
Absolument. C'est là que j'ai fait mes gammes d'écrivains, moins en écrivant qu'en écoutant. Je crois vraiment que savoir écrire, c'est d'abord savoir écouter. Et au Cahier de Mai, on écoutait les gens, on rédigeait à partir de ce qu'ils nous avaient dit, et on leur restituait la rédaction, et elle n'était publiée que quand elle était acceptée par l'ensemble des gens que nous avions écoutés. Et c'est très fort d'arriver à écouter, si vous voulez, pas seulement avec les oreilles, mais en saisissant les attitudes, les réactions, le ton de la voix, les gestes. Bon, tout ça, c'est une écoute, une vraie écoute. Et ça, c'est bien sûr que c'est ça qui me permet d'inventer des personnages.
Parmi les grands auteurs qui vous ont marqué, Dominique Manotti, il y a aussi le grand historien marxiste Edward Thompson, sur lequel vous avez donné des cours, vous l'avez également traduit. Je vous propose d'écouter un extrait de la préface de son grand ouvrage « La formation de la classe ouvrière anglaise » paru en 1963. Le titre de ce livre est maladroit, mais il a le mérite d'être adéquat. Le mot « formation » indique que l'objet de cette étude est un processus actif, mis en œuvre par des agents, tout autant que par des conditions. La classe ouvrière n'est pas apparue comme le soleil à un moment donné, elle a été partie prenante de sa propre formation. Il s'agit bien entendu de savoir comment l'individu en est venu à occuper un rôle social, et comment est née cette forme spécifique d'organisation sociale avec ses droits de propriété et sa structure de pouvoir? Ce sont là des questions historiques. Si nous arrêtons l'histoire, à un moment donné, il n'y a plus de classe, mais simplement une multitude d'individus vivant une multitude d'expériences. Mais si nous observons ces individus sur une période appropriée de changement social, nous pouvons distinguer des constantes dans leurs relations, leurs idées et leurs institutions. La classe se définit par des hommes vivant leur propre histoire. Telle est, en définitive, sa seule définition. Dominique Manotti, en quoi la pensée d'Edward Thompson a-t-elle été importante pour vous ?
Ah, elle a été tout à fait fondamentale. Mais j'ai jamais lu un livre d'histoire aussi puissant que celui-là. Mais c'est celui-là que j'ai traduit en partie, hein, le dernier tiers. Je voulais juste signaler que formation, c'est la traduction française de the making of the English working class. The making. Et c'est pas la même nuance.
On pourrait l'appeler la fabrique plutôt de la classe ouvrière.
Ouais, on était très ennuyés par la traduction du titre. On cherchait quelque chose de plus
incisif.
Manuel. Making, c'est beaucoup plus puissant que formation.
Et alors Edward Thompson et sa pensée sur la classe ouvrière, Dominique Manotti, a été importante pour vous et importante aussi pour votre travail de romancier ?
Sûrement, sûrement. Et puis, si vous voulez, ça coïncide très très bien avec mon expérience des Cahiers de Mai. Donc tout ça se tient. Et à la même époque, en même temps, nous travaillons beaucoup aussi avec les Italiens, avec les communistes italiens, Rossanda, Rossana Rossanda, Lucio Magri, Bruno Trentin, enfin toute cette, tout ce groupe, si vous voulez, syndicaliste et politique autour de Il Manifesto, qui eux avaient une pensée vraiment vivante et actuelle, impliquée dans la politique et qui était très très proche. C'était, il y avait vraiment là tout un courant, si vous voulez, les réflexions de Trentin sur le syndicalisme italien, dans une certaine mesure, avec des différences politiques et historiens, c'est pas pareil, mais enfin, syndicalistes et historiens, c'est pas pareil, mais il y a des résonances entre les deux, si vous voulez. Donc là, il y avait vraiment tout un mouvement dans ces années-là, de richesse extrême autour de cette problématique.
Et on arrive au début des années 80, François Mitterrand accède au pouvoir. C'est là véritablement que vous décidez d'écrire Dominique Manotti. C'est la déception des années Mitterrand qui vous pousse à devenir romancière.
Ben, si vous voulez, déception, c'est pas évident parce que je n'y ai jamais cru. Ce qui était un choc terrible, c'est que j'ai vu l'impact incroyable de cette élection sur les mouvements sociaux, qui ont été mais vraiment désintégrés en quelque sorte. Ça a pris 2-3 ans, mais ils ont disparu de la scène. Et pour moi, je savais que Mitterrand, c'était ça. Quand il a été élu, et en plus élu avec un soutien populaire considérable, je me suis dit vraiment, ce pourquoi on s'est battu pendant 20 ans, on n'a pas gagné. On n'est pas compris, on n'a pas été compris, on n'a pas convaincu. Le soutien populaire à Mitterrand, ça veut dire l'incompréhension de tout ce que nous avons fait pendant 20 ans et de tout ce que nous avons cherché à faire, de tout ce que nous avons écrit, etc. Voilà. Donc, ce n'est pas une déception parce que je n'y ai jamais cru.
Et qu'est-ce qui faisait justement chez François Mitterrand que vous ne croyiez pas en sa capacité justement de faire progresser la société, d'aller justement vers plus de progrès social?
Ben, toute sa carrière. Je veux dire, ce n'était pas un nouveau-né, Mitterrand.
Parce qu'en 81, beaucoup de gens y croyaient tout de même.
Parce qu'ils ne savaient pas. Parce qu'ils étaient des nouveaux-nés, les gens. Si vous voulez, bon, Mitterrand, c'est vraiment toute l'histoire de cette gauche française qui a loupé la période de la décolonisation, qui n'y a rien compris, qui a participé à la colonisation la plus violente. Et c'était quelqu'un pour qui le mouvement de masse n'avait pas de place. C'était une conception complètement pouvoir politique, point. Aucune conception du rapport entre la lutte de classe, les mouvements sociaux et le pouvoir politique. Donc tout pour le pouvoir politique. Et ça, je savais que ça pouvait pas marcher.
Alors le terme de déception ne s'applique pas à Mitterrand, j'entends bien Dominique Manotti, peut-être cela s'applique plus à votre engagement à la CFDT, parce que là vous y avez cru et pour le coup vous avez été assez déçu.
Ben, c'est-à-dire que ce que j'ai vu, mais alors vraiment vu concrètement, sous mes yeux, c'est le ralliement de tous ces gens qui parlaient de l'autonomie de la classe ouvrière, qui se battaient au nom de l'autonomie de la classe ouvrière, et qui se sont ralliés au pouvoir politique avec la meilleure volonté du monde, c'est-à-dire en se disant « Ah, enfin, on a gagné !» Donc, eh ben, on a oublié complètement ce que l'on disait un an avant, on a oublié complètement les bagarres qu'on a menées auparavant, et voilà, on a un secrétaire général de la métallurgie qui est devenu préfet.
Et c'est à ce moment-là, Dominique Manotti, que vous choisissez la forme du roman noir. Pourquoi ce choix? Parce que ça vous permettait de faire à la fois un roman social et un roman policier?
Oui, roman noir parce que c'est ce que j'aime lire, ce que j'aime voir au cinéma, ce que j'aime regarder. Donc, et surtout, si vous voulez, ce qui me fascine, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'écrire, c'est en fonction de toute mon expérience. c'est le fait que le crime, les grands criminels, plus exactement les organisations criminelles, sont des rouages de la société. C'est absolument pas le mal contre le bien, c'est un des rouages de la société. Et c'est ça que j'ai voulu essayer de comprendre, de vraiment. J'écris un roman noir pour essayer de comprendre une situation donnée. Cette situation donnée, je prends quelques exemples, si vous voulez. Bon, par exemple, j'essaye de comprendre la naissance du trading du pétrole. C'est or noir. Bon, ce qui est quand même une branche tout à fait nouvelle qui apparaît à partir de 73. Je me documente, bien. Et puis, en cours de route, en lisant la biographie autorisée de Marc Riche, qui a été le fondateur du trading du pétrole, je lis une anecdote de sa vie où il raconte, il était trader dans la plus grande société mondiale de trading des matières premières minérales. Le patron ne voulait pas entendre parler du pétrole. Le pétrole, c'était l'affaire des sept sœurs, des grandes compagnies, et il fallait maintenir un bon ordre, chacun chez soi, pas de fausse concurrence, etc. Donc, rien sur le pétrole. Et un trader qui travaille directement avec Marc Riche se trouve à Tunis, où il travaille pour cette société qui l'emploie, en septembre 69. Et là-dessus, il y a quelqu'un, il est sur le port de Tunis, il y a quelqu'un qui lui dit, vous voyez ce tanker là, 125 000 tonnes de pétrole. Je vous le vends, à l'époque le prix du pétrole était autour de 4 dollars. Je vous le vends à 1 dollar, ça fait 125 000 dollars, vous me payez en liquide dans 2 jours. Vous êtes preneur ? On ne savait pas qui était le propriétaire, on ne savait pas d'où venait le pétrole. Il téléphone à Marc Riche, et Marc Riche dit oui, on y va. Alors, je vous pose la question, comment il trouve son fric ?
Ah, je ne sais pas, mais ça a été une affaire juteuse avec la hausse des prix du pétrole 4 ans plus tard.
Non, d'accord, mais comment il trouve son fric ?
Bah alors, dites-nous, Dominique Manetti.
C'est le grand banditisme. Évidemment. Qui voulez-vous qui fournisse 125 000 dollars à un type qui n'a aucune garantie de rien, qui n'a jamais été dans le pétrole, dont la boîte ne veut pas s'en occuper ? Vous croyez qu'une banque va se lancer ? Évidemment non. Aucune banque ne se lance. La seule, et il est à Milan à l'époque, et qui est à Milan à la même époque ? Luca Luciano.
Alors justement, le grand banditisme, c'est aussi le sujet du roman de James Ellroy, L.A. Confidential.
Life is good in Los Angeles. It's paradise on earth. That's what they tell you anyway. Because they're selling an image. They're selling it through movies, radio and television. In the hit show Badge of Honor, the L.A. cops walk on water as they keep the city clean of crooks. Yep, you'd think this place was the Garden of Eden, but there's trouble in paradise. And his name is Meyer Harris Cohen, Mickey C. to his fans, local L.A. color to the nth degree, and his number one bodyguard, Johnny Stompanato. Mickey C's the head of organized crime in these parts. He runs dope, rackets, and prostitution. He kills a dozen people a year. And the dapper little gent does it in style. And every time his picture's plastered on the front page, it's a black eye for the image of Los Angeles. Because how can organized crime exist in the city with the best police force in the world?
On pourrait se croire au Jardin d'Éden, mais il y a au moins un ver dans le fruit et il s'appelle Meyer Harris Cohen. Il est le roi du crime organisé dans la région. Il tue une douzaine de personnes par an et ce fringant gentleman y met les manières. Comment le crime organisé peut-il même exister dans la ville qui a la meilleure police du monde ? Voilà, c'est le début du film L.A. Confidential de Curtis Hanson, adapté du roman de James Ellroy. C'est un récit enquête qui vous a, parmi d'autres, ouvert les portes du roman noir, Dominique Manetti ?
Oui, je corrige, hein, j'ai dit Lucky Luciano, c'est pas Lucky Luciano. En 69, il est mort. Ah. Non, c'est la mafia italienne. Bon. Ce qui est très, très significatif, c'est que dans l'histoire que j'ai racontée, c'est Marc Risch lui-même qui la raconte ou qui la cautionne, puisque sa biographie est autorisée. Et personne, jamais, ne lui a posé la question d'où vient l'argent.
Et ça, ce sont des enquêtes que vous menez, Dominique Manotti, et...
Oh, attendez, je ne suis pas policière, je ne mène pas d'enquête. Moi, je me saisis de cela et je réfléchis à une possibilité. Et je me dis, ça doit fonctionner comme ça. Voilà.
Ce sont des enquêtes journalistiques, en effet, en un sens, ou un travail d'historien, de documentation que vous faites pour vos romans, Dominique Manotti. Vous puisez votre matière romanesque dans le réel, et cela dès votre premier roman, Sombre Sentier, paru en 1995. Vous vous êtes alors inspiré de la lutte des travailleurs clandestins de la confection, dans le sentier, pour leur régularisation. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode ?
Ah bien sûr, bon, pour moi ça a été, de toutes les bagarres auxquelles j'ai participé quand j'étais syndicaliste, ça a été la plus flamboyante, vraiment, la plus flamboyante. Si vous voulez, c'est fascinant et c'est certainement un moment où je me suis beaucoup forgé ma façon de voir les choses. C'est fascinant parce que, voilà, à l'époque, le sentier est vraiment localisé au centre de Paris. L'industrie de la confection parisienne est au centre de Paris. Bon. Il y a 11 000 travailleurs clandestins dans ces ateliers. 11 000 travailleurs clandestins en plein Paris. C'est pas rien. Et tout le monde sait que la confection parisienne repose sur le travail clandestin. Et tout le monde l'accepte. J'ai vu défiler dans les ateliers, pas seulement les petites robes à fleurs de la jeune fille du coin, mais aussi, par exemple, prêt-à-porter des grandes marques. Alors, sûrement pas la haute couture, mais le prêt-à-porter de la haute couture, le prêt-à-porter des marques de haute couture. Mmh. Et tout le monde sait que ces gens sont clandestins, mais tout le monde en a besoin. C'est ça, à partir du moment où la branche a besoin de travailleurs qui sont clandestins, on s'en fout, mais qui sont hors du code du travail. C'est ça la raison.
Et là, il y a une mobilisation, Dominique Manotti, ouais, qui va aboutir à la régularisation, ouais, de ces milliers de travailleurs.
Qui a duré 6 mois et qui aboutit à la régularisation de la totalité de ces travailleurs. Là-dessus arrive Mitterrand, qui ne s'intéresse pas du tout à ce qui s'est passé. Personne. Les responsables socialistes de la question du travail ne s'y intéressent pas non plus. Donc, si vous voulez, ça va se finir. Les 11 000 régularisés vont passer dans le reste de la société, vont ouvrir des restaurants, par exemple. C'est le début des restaurants turcs à Paris. Mais ils sont remplacés par d'autres travailleurs clandestins. Mmh. Aujourd'hui, c'est les Chinois.
On va continuer à explorer votre imaginaire économique, Dominique Manotti. Mais d'abord, je vous propose d'écouter Thelonious Monk, le grand prêtre du bebop.
Thank you.
l'influence du pianiste et compositeur de jazz Thelonious Monk. C'est une musique qui vous plonge dans une atmosphère propice à l'écriture, Dominique Manotti.
Oui, absolument. J'écris pas toujours en musique, j'écris même très rarement en musique, mais dans certains moments, j'ai besoin, là je trouve qu'il y a deux choses absolument formidables, c'est le rythme. J'essaye moi toujours de trouver des rythmes qui correspondent à ce que je suis en train d'écrire et de raconter. Ça peut être lent, mais ça peut être aussi syncopé, rapide, coupé, avec des variations, etc. Bon. Et ça m'inspire. Le jazz m'inspire en règle générale et particulièrement Monk. Et la deuxième chose que je trouve extraordinaire chez Monk, c'est la dissonance, l'utilisation de la dissonance. Et moi, ça m'aide pour essayer d'inventer mes personnages. Je veux avoir des personnages dissonants. Je ne veux pas avoir des personnages bien, des personnages mal, catégorisés, classés, constants. Je veux avoir des personnages dissonants.
Ça les rend complexes.
Ouais, ça les rend complexes et ça casse la certitude du lecteur. Voilà, il faut casser les certitudes du lecteur.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho suite de notre grand entretien avec la romancière de Polar économique Dominique Manotti, une émission réalisée par François Richer, mise en onde par Valentin Bobinet. Alors comment est-ce que vous choisissez vos sujets de romans, Dominique Manotti? On a parlé de cette mobilisation des travailleurs clandestins qui vous avait inspiré pour votre premier roman. D'une façon plus générale, c'est l'actualité économique et sociale qui vous guide?
Oui, mais un peu au hasard. Ça se passe quand même assez au hasard. Si vous voulez, c'est... Bon, d'abord, quand je suis sur un roman, j'en ai pour à peu près 2 ans, et là, je lis très peu de choses en dehors. Je suis vraiment polarisée là-dessus, bon, sur mon sujet. En règle générale, dans ma vie de tous les jours, je lis des journaux, des livres, etc. Et un peu au hasard, comme une histoire d'amour qui arrive comme ça, je tombe sur un fait divers ou une réflexion, etc., qui m'intrigue. Et je me dis, il faut que j'essaye de comprendre. Et pour comprendre, il n'y a pas de meilleur moyen que de se mettre à écrire un roman. Un roman, c'est une façon d'entrer dans la vie du fait divers à un moment donné. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est des faits divers qui sont articulés sur une histoire sociale, économique et sociale complexe. C'est évident que je ne suis pas du tout dans le fait divers de Monsieur tue Madame. Pourquoi?
Il faut que ça implique des groupes sociaux et non pas seulement des individus, ouais, on vous a bien compris, Dominique Manotti. Vous avez voulu raconter dans votre deuxième roman, À vos chevaux, les années Mitterrand. C'était pour vous une façon d'exprimer ce que vous avez vécu comme une période d'explosion de la corruption et de ralliement de la gauche au libéralisme économique.
Voilà, le ralliement de la gauche au fric. Oui, oui, oui. À nos chevaux, nos fantastiques années fric, oui, c'est ça le fond. C'est le ralliement de la gauche au culte de l'argent, ce qu'elle n'avait pas du tout avant. Elle avait déjà beaucoup de défauts parce que l'histoire de la SFIO est lourde de renversement, de faiblesse extrême, etc. Bon. L'histoire du communisme a aussi une quantité de difficultés, de défauts, etc. Donc, la gauche en France, elle avait beaucoup de mal à beaucoup de choses. Mais au moins, il n'y avait pas cette apologie du fric qui est maintenant bien entrée et grave, gravissime.
Allez, on écoute un extrait de nos fantastiques années fric paru en 2001. Une jeune call girl de luxe a été assassinée. Elle appartenait à un réseau de personnalités, parmi lesquelles se trouve un flic chargé de la protection du conseiller privé de Mitterrand. Ce dernier, Bornand, fait appel au service de Morisset, un ancien des services secrets. « Morisset parcourt les différentes chemises des clients, classées par ordre alphabétique. Il trouve rapidement confirmation de ce que lui avaient dit les Syriens. Beaucoup d'armes d'origine française et israélienne, retapées et adaptées pour les milices chrétiennes au Liban, la Corne de l'Afrique, l'Afrique noire francophone, le plus gros client et bien sûr, en l'occurrence, le plus intéressant. Au centre du réseau, la famille franco-libanaise des Djimil. 7 frères, chiites, émigrés au début des années 50 en Côte d'Ivoire parce que les chrétiens tenaient tous les rouages au Liban. Ils se sont rapidement enrichis. L'un d'eux, installé en Sierra Leone, organise la contrebande du diamant, contrôle à peu près la moitié de la production du pays et est aujourd'hui une des grandes fortunes de l'Afrique. Très religieux, il finance les œuvres de toute la communauté chiite en Afrique noire et maintient des rapports étroits avec les ayatollahs et le régime iranien. Un autre frère, Mohamed Djimil, qui est resté en Côte d'Ivoire, s'est spécialisé dans l'importation d'armes. Des volumes importants d'armes, un avion cargo de taille moyenne par semaine. Rien sur la destination finale. La Camoc ne connaît que Djimil, l'intermédiaire. Mais Morisset voit bien le circuit. Les mercenaires français, les guérillas africaines, les gardes présidentielles et dans le prolongement, l'Afrique du Sud, toujours sous embargo. Et là, évidemment, qui dit Afrique francophone dit qu'on n'est pas bien loin des réseaux du RPR. D'ailleurs, il est de notoriété publique que le Djimil de Côte d'Ivoire finance régulièrement les campagnes électorales de ce parti. On peut penser légitimement qu'il y a là une piste sérieuse. Mais en même temps, est-ce vraiment neuf ? Peu à peu se dessinent les contours d'une affaire d'État dans ce roman, Dominique Manotti. Vous avez voulu montrer les liens entre le trafic d'armes et la politique étrangère de la France dans le contexte de la guerre Iran-Irak. Et c'est véritablement un travail d'historien, d'historienne qu'il vous a fallu entreprendre pour construire ce récit ?
Pas vraiment. Je me suis inspirée de travail d'historien et d'historienne que j'utilise, si vous voulez. Je ne travaille pas, je ne peux pas pour un roman faire un vrai travail d'historien. Il faut sortir de nouvelles sources, il faut travailler dans les archives. Bon, je peux pas faire ce travail. Ce que m'a donné mes études d'histoire, c'est la capacité à faire des bonnes bibliographies. C'est-à-dire à savoir ce qu'il faut lire, comment il faut le lire, où le trouver, etc. Voilà. C'est ça que m'a donné ma formation d'historienne. Donc c'est ce que j'utilise.
Les années 80 et 90, c'est aussi une époque où l'économie se financiarise. C'est un tournant essentiel pour vous, Dominique Manotti, dont vous vous êtes emparé dans un autre roman, L'or noir, dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, je crois que c'est un tournant essentiel. Et puis c'est un tournant essentiel pour la corruption aussi. C'est-à-dire que dans les années qui précèdent, la corruption, elle va plutôt... Les grandes entreprises européennes achètent des hommes politiques, des intermédiaires, etc., dans les pays du tiers-monde qu'ils sont en train de coloniser. À partir des années 70-80, la colonisation s'effondre et du même coup, ce phénomène d'achat, se retourne en boomerang vers l'ancienne métropole. C'est-à-dire que qui dit commission, dit rétro-commission. Et voilà, c'est toute la pomme qui est pourrie. On a commencé par un petit bout et maintenant c'est tout le fruit qui est pourri. C'est-à-dire que nos circuits à nous sont aussi corrompus que les circuits des pays colonisés, ex-colonisés.
C'est pour cela que vous comparez le monde de la finance et le monde de la mafia, puisque vous avez exploré le monde de la finance à travers l'affaire Madoff notamment. En quoi est-ce que ces deux univers se ressemblent selon vous ?
Ils se ressemblent parce qu'ils ont besoin les uns des autres. Ils ont besoin des uns des autres. Les mafias, si vous voulez, enfin le crime organisé, est fournisseur de quantités d'argent noir, d'énormes quantités d'argent noir. Et les grandes entreprises, les entreprises, ont besoin d'argent noir. Donc, on leur a créé des lieux sur lesquels ils se rencontrent et ils font affaire, les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux sont là pour leur permettre de négocier entre eux en toute impunité. Et ça marche très bien. Il y a un rapport de la CIA. La CIA fait tous les 5 ans des rapports de prévision. Le dernier rapport de la CIA prévoit que dans les années 30 à 40, L'argent noir fera 40% de la masse monétaire mondiale. Et vous croyez qu'on peut s'en passer ?
C'est absolument considérable. Et alors, c'est intéressant, cette exploration de l'affaire Madoff, à laquelle vous vous êtes attaqué, Dominique Manotti, puisque pour vous, Bernard Madoff, qui a monté donc cette gigantesque escroquerie, cette pyramide à la Ponzi, pour vous, il a payé finalement pour tout le monde parce qu'il s'était attaqué aux plus riches, mais ceux qui ont été peut-être responsables de la crise financière de 2008, eux, n'ont pas été inquiétés.
Ou très peu. Lui est complètement en dehors de cette crise financière de 2008. Je ne crois pas du tout à la pyramide de Ponzi. Je crois qu'il y a derrière Madoff, il faut savoir que l'escroquerie Madoff dure 20 ans. Une pyramide de Ponzi ne dure pas 20 ans. Les pyramides de Ponzi, 6 mois, 1 an, et puis elles se cassent la figure. Bon, et si vous voulez, bon, on ne va pas entrer dans le détail, mais il faut quand même ne pas oublier que Madoff n'a jamais été jugé. Il n'y a pas de procès Madoff. Donc on ne sait rien sur l'entreprise Madoff. Il y a eu une négociation entre le procureur et lui. C'est tout. On ne sait rien sur l'affaire Madoff. Mais évidemment, ce n'est pas une pyramide de Ponzi. Moi, j'ai pensé, si vous voulez, que c'était une énorme lessiveuse d'argent sale. Et j'ai pensé que c'était la lessiveuse d'argent sale du pétrole de contrebande du golfe de Guinée. Il y a un énorme pétrole de contrebande. C'est les États eux-mêmes qui font de la contrebande. Bon, il faut bien qu'ils écoulent ce fric quelque part.
Et pour en savoir plus, il faut lire votre roman consacré à l'affaire. Alors, le monde de la grande industrie n'est pas en reste dans votre œuvre, Dominique Manotti. Il y a une œuvre qui vous a marqué. Il y a une affaire qui vous a marqué, celle du rachat de la branche énergie d'Alstom par General Electric. C'était en 2014 et à l'époque, le projet avait provoqué la colère d'Arnaud Montebourg, alors ministre de l'économie.
Et depuis le mois de février, j'interroge M. Patrick Cron, président de cette entreprise qui est notre fleuron national. Et M. Patrick Cron, alors que je l'ai interrogé dûment, solennellement et sérieusement, m'a toujours dit qu'il n'avait aucun projet d'alliance. Est-ce que le ministre de l'économie doit aller installer un détecteur de mensonges dans son bureau pour les présidents du CAC 40 qui n'ont pas le civisme élémentaire d'avertir leur gouvernement ?
Le cynisme élémentaire d'avertir leur gouvernement. Alors malgré ce coup de sang à l'Assemblée, la vente a bien eu lieu. En quoi cette opération s'apparente-t-elle pour vous à un racket ? C'est le titre du roman que vous avez consacré à l'affaire, Dominique Manotti.
Bah, si vous voulez, les entreprises américaines sont... enfin, c'est très curieux d'ailleurs. On a une espèce d'image des États-Unis comme pays du libéralisme. C'est absolument pas vrai. Les grandes entreprises américaines sont très solidement appuyées sur leur État. Et l'État américain joue à fond. Clinton l'a dit d'ailleurs dans des discours à plusieurs reprises, c'est pas du tout caché. La politique par exemple des amendes contre les entreprises françaises ou européennes, c'est une politique qui ne peut marcher que parce qu'elle est appuyée sur l'État américain. Donc l'État américain dans cette histoire a joué à travers la justice américaine une pression absolument énorme. C'est la définition du racket. Ils ont pris des otages, ils ont enclenché des démarches judiciaires pour obtenir l'accord sur le rachat.
Et pour s'emparer d'un fleuron effectivement stratégique
De l'industrie française. Je vous signale quand même qu'il a maintenant, le GE a maintenant General le monopole Electric. Des turbines des sous-marins atomiques, entre autres.
Alors justement, c'est quelque chose qui fait écho avec l'actualité, la rupture par Canberra du contrat des sous-marins français. Ça a mis à jour justement la duplicité de l'allié américain et les liens dont vous parlez entre la grande industrie américaine et l'État américain.
Oui, bien sûr, mais il n'est pas duplice, hein, l'État américain. Il a toujours dit « America first », c'est pas Trump, c'est les États-Unis.
En cela, Joe Biden n'est pas très différent.
Non, et Obama non plus, et Clinton avant non plus. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de duplicité là-dedans. La duplicité, c'est des États européens qui font semblant de ne pas y croire. et qui savent très bien que...
Ils pêchent par naïveté, selon vous ?
Non. Ils pêchent par faiblesse.
Vous pourriez en faire un roman, Dominique Manotti, cette histoire des sous-marins nucléaires ?
Sûrement, mais il faudrait que je sois bien documentée sur la question. Ça ne doit pas être très très simple pour l'instant.
Il y a effectivement beaucoup de ramifications dans cette affaire.
Il y a tout, il y a vraiment tout. Mais je vous répète, Alstom, la vente d'Alstom, faisait que nous étions désarmés là-dessus, de toute façon.
Votre père était, je crois, un grand industriel français, Dominique Manotti. C'est un univers, celui de l'industrie, auquel vous avez eu accès dès votre enfance ?
Oui, dès enfin, 10-12 ans. Oui, on parlait beaucoup ensemble. Il me racontait beaucoup ce qu'il faisait et ça m'intéressait beaucoup.
C'était quel type d'industrie ?
C'était des industries.
On n'en saura pas plus. Alors, quels sont aujourd'hui, Dominique Manotti, les autres romans qui témoignent de la réalité économique dans laquelle nous vivons ? Quels sont les romans qui aujourd'hui vous inspirent ?
Alors, c'est pas des. Les romans qui m'ont beaucoup inspirée, c'est pas forcément des romans très très actuels. Par exemple, je crois que j'ai été très fortement influencée par Dos Passos. Bon, et j'ai beaucoup aimé la façon dont Dos Passos intègre dans son roman, dans son écriture romanesque, intègre des fenêtres d'études réelles. Par exemple, il y a un moment absolument génial où il décrit le fonctionnement, décrit Taylor, l'ingénieur du taylorisme, qui a inventé le taylorisme. Il le décrit, il raconte son invention et il raconte comment ça fonctionne dans les usines. Moi, en tant qu'enseignante d'histoire économique, j'ai longtemps utilisé ce texte de Dos Passos, que je trouve à la fois très très bien écrit et parfaitement précis, clair, enfin bon.
Extrait de Manhattan Transfer ?
Oui.
Ok.
Et il y a plein d'autres moments, si vous voulez, de sa trilogie que j'aime vraiment énormément. Je trouve qu'il est un des tout premiers à avoir expliqué, ou non, à avoir raconté à quel point le cinéma est quelque chose de fantastique et de nouveau, quoi. Bon, tout ça, je le trouve dans Dos Passos. C'est certainement quelqu'un qui m'a beaucoup influencé. Ensuite, c'est des auteurs américains qui m'ont influencé. Dasha Lamette, où j'ai retrouvé le style de Jules César, en quelque sorte.
Dernière question, Dominique Manotti.
Et Elroy.
Et James Elroy, dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous croyez aujourd'hui, Dominique Manotti, que plus que jamais, on a besoin de comprendre l'économie et ça passe en grande partie par le roman parce que justement, on peut attirer le lecteur à travers une intrigue, à travers un crime vers des sujets économiques, politiques, sociaux ?
Ah oui, ça, j'en suis convaincue. Convaincu, le rôle, vraiment la littérature, il faut qu'elle se secoue, il faut qu'elle bouge, il faut qu'elle s'intéresse à ce qui se passe dans le monde. Et j'ai un ami, un très bon ami, auteur de polar, qui parle de la littérature française en disant l'histoire de moi et mon radiateur.
Donc il y a encore du travail.
Il y a encore du travail.
Merci beaucoup Dominique Manotti de nous avoir embarqué dans votre univers peuplé de truands et d'hommes politiques véreux. Votre dernier roman c'est Marseille 73. Il se passe comme son nom l'indique dans le Marseille de l'année 1973, une décennie après l'indépendance de l'Algérie, c'est ça ?
C'est ça et c'est la continuation de la guerre d'Algérie. Sur le sol français.
Alors, il est publié aux Arènes. On mettra toutes les références de vos romans sur le site, sur la page de l'émission. Un immense merci, Dominique Manotti, d'être venu dans nos studios.
No one aware. France Culture, Entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
14h51 sur France Culture, l'heure de retrouver le pourquoi du comment en partenariat avec l'Institut Veblen. C'est avec l'économiste Florence Janicatrice.
Que signifie activer les dépenses passives ? Activer les dépenses passives est une expression très utilisée dans la littérature économique et dans les lieux décisionnels et qui mérite quelques éclaircissements. D'abord, les dépenses passives regroupent les dépenses publiques d'indemnisation du chômage et celles liées au versement de minima sociaux, par exemple le minimum vieillesse et plus généralement toutes les allocations qui sont versées aux personnes les plus démunies. Ces dépenses sont qualifiées de « passives » parce qu'elles s'adressent précisément à des gens qui ne sont pas actifs sur le marché du travail. Du coup, activer ces dépenses passives désigne des politiques publiques qui entendent inciter les chômeurs à reprendre un emploi ou tout au moins à être actifs dans leur recherche. L'idée de sortir les gens coûte que coûte de ce qui est appelé des trappes à inactivité. Le choix des mots et les politiques qui les incarnent sont lourds de sens. Activer les dépenses passives suggère en effet que les bénéficiaires de ces dépenses, les allocataires, auraient donc une préférence a priori pour l'oisiveté, pour la passivité. Ce choix est étonnant parce qu'il ignore à la fois l'importance du travail comme vecteur central de la reconnaissance en société et il ne tient pas compte non plus des contraintes réelles des chômeurs dans la recherche d'emploi, qu'elles concernent la garde d'enfants, les difficultés de mobilité ou encore les problèmes de santé. L'expression assigne ainsi une immense responsabilité aux chômeurs dans l'existence même du chômage. En tout état de cause, cette expression « activer les dépenses passives » n'est pas neuve. Elle émerge dans les années 80, au zénith de la diffusion de la pensée néoclassique, notamment dans les organisations internationales. Dans un contexte de chômage élevé, l'OCDE en banalisera largement la formulation en encourageant les pays occidentaux à réduire le coût du travail pour accroître la compétitivité et l'emploi et en baissant les indemnisations chômage pour rendre plus avantageux le fait de travailler plutôt que de rester désœuvré. En termes économiques, il s'agit d'accroître le différentiel entre, d'un côté, le niveau des revenus du travail et de l'autre, celui des revenus dits de remplacement, c'est-à-dire pour l'essentiel, les allocations chômage et les minima sociaux. Ces politiques conditionnent donc le versement de ces allocations à une obligation de comportement vertueux, la vertu désignant ici la sortie de l'oisiveté supposée. Cela prend la forme de l'obligation d'un suivi de formation ou encore de l'obligation de rechercher activement un emploi et de faire la preuve de cette recherche active. Le déploiement de ces politiques d'activation des dépenses passives s'est fait de manière différenciée dans les pays occidentaux. On trouve une illustration magnifique de cette incitation et de ses conséquences humaines dramatiques dans le cas britannique, dans le film de Ken Loach, « Moi, Daniel Blake ». Dans ce film, un artisan se retrouve au chômage pour des raisons de santé et se voit contraint à rechercher un emploi sous peine de sanction. L'un des problèmes centraux de ce type de politique est que la plupart ciblent la responsabilité des chômeurs en tant qu'individus avant de cibler le chômage en tant que processus macroéconomique. Je m'explique. Pour recruter, les entreprises ont besoin d'anticiper suffisamment de débouchés pour leur production. Ou, pour parler en termes keynésiens, elles ont besoin de demandes effectives. Et si leurs carnets de commandes sont vides, il y a peu de chances qu'elles recrutent. Et cela n'a vraiment rien à voir avec la responsabilité individuelle des chômeurs.
We'll be right back.
C'est la fin d'Entendez-vous l'écho. On se quitte avec le groupe Beach House, Once Twice a Melody. Demain, c'est l'autrice de documentaire Mariana Otero qui partagera avec nous son regard sur l'économie. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.